BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Un peu plus de 11h sur BFM Business. Effectivement, c'est toujours BFM Patrimoine, l'émission 100% placement. On est ensemble jusqu'à midi. Dans un instant, on fait le point sur la séance à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui se reprend de 0,5%. Mais avant cela, c'est l'essentiel de l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la croissance devrait bien atteindre 0,2% au deuxième trimestre, comme au premier. Confirmation de l'INSEE ce matin. Du côté de l'emploi salarié, il y a eu 42 000 créations nettes dans le privé au premier trimestre, soit une progression de 0,2%. Il s'agit du neuvième trimestre consécutif de hausse. En revanche, la production industrielle repart à la baisse en mars. Elle recule de 1,1% après un rebond en février, plombé par des reculs dans plusieurs secteurs, de la pharmacie à l'énergie, en passant par le BTP. Et en Allemagne aussi, les commandes industrielles s'effondrent. Elles reculent de près de 10,7% en mars. Du jamais vu depuis le Covid, nourrissant les craintes de récession, le secteur automobile est particulièrement concerné. Encore beaucoup de résultats d'entreprise ce matin pour le premier trimestre. Thales publie un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% à 4 milliards d'euros, porté notamment par ses activités liées à l'aéronautique civile et la biométrie. Le groupe confirme ses objectifs. Air France bat les attentes au premier trimestre. La compagnie affiche un chiffre d'affaires en hausse de 42% sur un an, à plus de 6 milliards d'euros, porté par le rebond de la demande mondiale de voyages et d'un nombre important de ventes de billets d'avion pour la période estivale. Le groupe réduit sa perte à 344 millions d'euros. De son côté, Adidas affiche une perte nette de 39 millions, pénalisée par l'arrêt des baskets Yeezy du rappeur américain Kanye West sur l'année. L'équipementier sportif prévoit une perte de 700 millions d'euros. Les ventes dépassent les 5 milliards d'euros sur un an et c'est mieux que prévu. Aux États-Unis, après SVB et First Republic, une nouvelle banque régionale est dans le viseur des marchés. Il s'agit de PacWest. L'établissement basé à Los Angeles a fondu de 50% en bourse hier. Sa capitalisation s'est érodée de près de 90% depuis le début de la crise du secteur il y a maintenant 2 mois. Ses actifs sont évalués à 41 milliards de dollars. Et puis, Goldman Sachs est visé par une enquête pour éclaircir son rôle dans la faillite de SVB. Goldman Sachs est critiqué pour avoir à la fois mené des activités de conseil pour la banque et dans le même temps racheté des titres dépréciés au cours d'une opération qui s'est révélée avoir joué un rôle central dans la faillite de SVB.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, on vous retrouve tout à l'heure dans 90 minutes business pour un nouveau point sur l'actualité économique. Comme promis, on retrouve Aude Kersulec à Euronext pour nous donner des nouvelles de la Bourse de Paris. Bon, on reprend un petit peu de hauteur. On était déjà en hausse, mais c'était très timide la dernière fois qu'on s'est parlé. Bon, ça l'est toujours, mais un petit peu moins, plus 0,48.
Oui, c'est ça, 7374 points. Bon, quand même, il ne se passe pas grand-chose. Il y a très peu de volume sur ce marché parisien. On n'a pas encore passé le cap du demi-milliard d'échanges sur le CAC 40. Alors, on est en hausse aussi sur les autres marchés européens. Tiens, le DAX, ça progresse un petit peu plus, plus 0,67%, plus 0,2% sur l'Eurostox. Alors, pour l'instant, quand même, sur la semaine, sur le CAC 40, on perdrait 1,4%. Tout ça à cause d'une mauvaise séance mardi. Alors, le reste, on n'a pas fait grand-chose. On a légèrement baissé hier à la suite de la BCE, de la Fed ou aussi des craintes sur le secteur bancaire américain d'ailleurs. Mais on pourrait rebondir aux États-Unis aussi parce qu'on sait qu'il y a la publication d'Apple qui pourrait booster un petit peu les marchés, notamment les valeurs technologiques. En tout cas, sur notre marché à nous, eh bien, on a des valeurs au rebond quand même. Publicis, hier on avait perdu un petit peu plus de 5,5%. Et bien là, la valeur se reprend de 2,2% à 69,72 €. Renault en première place de ce CAC, plus 2,5% à 32,18 €. Et puis le secteur financier qui est quand même là, puisque AXA et BNP Paribas qui gagnent autour de 2%. Du côté des baisses, eh bien Airbus, après sa publication hier, sa publication de chiffre d'affaires, eh bien on est encore à la baisse aujourd'hui. On repère 1% à 120 €. Et Thales également. Alors on était en hausse tout à l'heure pour Thales. On est passé du côté du rouge, moins 0,5%. 136 euros. Alors pourtant, la publication de ce matin, elle affiche un chiffre d'affaires en hausse, hein, plus 9% en variation organique. L'entreprise qui confirme également ses objectifs financiers pour l'année, mais pour l'instant, donc c'est arbitré à la baisse. Et si on regarde du côté du SBF, on voit que bien le marché aujourd'hui, ce sont des valeurs spéculatives, hein, qui sont parmi les premières. Valneva, Orpea, donc des valeurs très volatiles qu'on a l'habitude de voir soit très fortement en baisse, soit très fortement en hausse. Plus 6% pour Valneva, 5,56 €, c'est plus 4,7% pour Orpea. Et du côté des baisses, là on retrouve une publication de l'aérien Air France KLM. Alors Air France KLM, on continue d'être en perte, hein, 340 millions d'euros pour la perte nette, mais dans le monde des compagnies aériennes, c'est assez habituel en ce moment, et c'est même mieux qu'anticipé, hein, pour cette perte nette. Mais ce que les analystes ont pointé du doigt, hein, sur cette publication, c'est finalement la perte d'exploitation qui est, elle, un petit peu plus forte que prévu, et notamment à cause de la filiale low-cost Transavia qui est moins rentable, parce qu'il y a eu des grèves au premier trimestre de contrôleurs aériens, il y a eu des avions encore cloués au sol, et ça a pénalisé la rentabilité, donc moins 3,5% pour la valeur Air France à 1,44 €. En revanche, si on regarde une autre compagnie, IAG, hein, du côté de Londres, on s'aperçoit que là c'est plutôt bien applaudi, hein, plus 3,1% à 1 € à 152 pence, puisque le résultat d'exploitation est finalement passé dans le vert pour IAG, et la perte nette a été réduite par 9. Voilà qui est encourageant. Et puis on parlait aussi dans le flash d'Adidas. Adidas, c'est une valeur qui est largement bien arbitrée, en plus 8,3%, 169 €. Alors les ventes sont meilleures que prévues, même si on baisse quand même de 1% par rapport à l'année dernière. Les analystes s'attendaient quand même un petit peu plus de baisse que ça à cause de l'affaire des baskets Yeezy. Et puis le bénéfice d'exploitation est lui aussi plus élevé qu'attendu, 60 millions contre 15 millions, même si à cause de charges, on est passé en perte nette pour ce trimestre. Voilà donc le CAC 40 qui rebondit pour le moment, plus 0,4%. On n'oublie pas au cours de la journée, le grand rendez-vous, c'est l'emploi américain, 14h30. Alors au niveau des créations d'emplois, le consensus espère une légère détérioration. On est plutôt autour de 182 000 contre 236 000 en mars dernier, tandis que le taux de chômage devrait rester encore assez faible, 3,6%. La Fed, hein, demande, espère une détérioration, un accalmie sur ce marché de l'emploi pour faire redescendre les prix. Ça pourrait donc évoluer, hein, sur les marchés après cette publication. Plus 0,4% pour le moment pour le CAC 40, 7 372 points.
On suivra ça de très près. Merci beaucoup Aude Kersulec, en direct de Euronext pour BFM Business.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Il est grand temps de retrouver nos invités de regard croisé aujourd'hui, Sandrine Covin et Daniel Gérineau. Bonjour à tous les deux. Merci Bonjour. D'être avec nous, Sandrine. Bonjour. Vous êtes directrice de la gestion collective d'OTA Capital et Daniel, président de Carlton Sélection. Ensemble, on va parler de ces marchés, toujours hauts, même s'ils tournent en rond depuis quelques jours. On va parler des leçons à tirer des hausses de taux de la BCE et de la Fed cette semaine. Et puis des derniers résultats en date aussi, faire une sorte de bilan de ce qui a été publié cette semaine. Et puis des réactions boursières à ces publications. On voit que le marché est de plus en plus exigeant. Et ça va de pair avec cet indice CAC 40, notamment qui tourne en rond. Tout d'abord, votre état d'esprit, votre mood, comme on dit, sur l'état des marchés. Sandrine, on reste encore à un niveau assez élevé. Ça vous étonne ou pas, compte tenu des circonstances ?
Alors, étonnant, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le marché, il y a des mauvaises nouvelles, mais les mauvaises nouvelles, je pense notamment à ce qui se passe au niveau de la crise bancaire aux États-Unis, oui. Le plafond de la dette, qui n'est pas rien non plus, mais pour l'instant, le marché reste avec ses lunettes roses et ne veut pas trop voir les mauvaises nouvelles.
Et vous-même, elles sont de quelle couleur, vos lunettes,
hein? Nous, on devient un petit peu...
Pour ceux qui nous écoutent, cette
on devient un peu plus prudent quand même après cette forte hausse, hein, c'est allé très vite depuis le début de l'année. Là on est à plus 15 sur le CAC, même l'Eurostoxx, donc c'est des niveaux élevés, et dans cet environnement là c'est clair que la prudence est de mise, et la sélection aussi au niveau des investissements.
Daniel,
moi je dirais que
vous êtes de plus en plus prudent, je crois.
Oui, je suis de plus en plus prudent parce qu'on avait quand même une perspective tournant, de hausse de 15% sur l'année. Bon, elle est quasiment faite. On est
ça y est, c'est épuisé.
Bon, c'est quasiment fait. Moi, ce que je dirais, c'est que quand même, le marché tient, il résiste plutôt pas mal parce qu'il absorbe toutes ces mauvaises nouvelles jusqu'au moment où il va considérer qu'il y en a un petit peu de trop ou qu'il n'y a plus assez de perspectives. Le marché aujourd'hui, c'est très compliqué. Il est truffé de questions sans réponse et il est bourré d'indicateurs divergents. Donc là-dedans, il faut faire son chemin. Les banquiers centraux, c'est le point culminant des réflexions. Est-ce que l'argent sera toujours disponible, sera toujours au rendez-vous? On sait très bien que ça va être plus le cas dans peu de temps.
Un peu moins le cas.
De moins en moins le cas, hein, puisque les bilans des banques centrales baissent, les bases monétaires diminuent.
Sauf quand il y a un stress bancaire, hein, on voit que la Fed, hop, ça remonte.
Voilà, exactement. Et donc, on a quand même un contexte qui est plus compliqué avec une véritable inconnue, c'est cette croissance. Rappelez-vous, en début d'année, on avait dit que la croissance ne va pas être bonne. Les premiers chiffres qu'on a eus, on a dit « Ah, ben finalement, elle ne sera peut-être pas si mauvaise que ça. » Et maintenant, on commence à dire « Ah, les chiffres qui apparaissent, quand on regarde les PMI, c'est encore une fois des indicateurs qui sont contradictoires. Les PMI sur le secteur manufacturier sont pas bons, vraiment pas bons. On a vu les chiffres ce matin en Allemagne, en France, vraiment, vraiment pas bons. Et le secteur non manufacturier, c'est-à-dire les services, là, ça s'améliore considérablement. » Alors, on peut avoir et les lunes, un œil rose, un œil gris. Le tout est de savoir lequel verra le mieux.
Et c'est un petit peu compliqué. Ça commence à devenir gris.
C'est compliqué.
D'accord, très bien. L'actualité de cette semaine, bon, c'est une actualité banque centrale. On a eu la Fed, on a eu la BCE. Sandrine, votre regard sur ce que nous a annoncé la BCE. Petit relèvement de taux, il y en aura peut-être d'autres, mais ça ne va peut-être pas aller très loin.
Oui, on pense qu'on arrive à la fin du chemin là pour les. Alors la BCE encore sûrement quelques petites hausses à faire, mais sur la Fed, c'est clair qu'on est arrivé. Jérôme Powell l'a dit, hein, on est arrivé au bout. Après, attention, le discours.
Il a laissé
reste,
entendre que voilà, c'était le bout. Il n'a pas
discours
confirmé.
Reste, mais on commence quand même à voir les dégâts que ça a fait. La crise sur les banques régionales aux États-Unis, c'est lié à c'est quand même le résultat. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un verre de trop dans ces hausses, mais je pense que du côté de l'Europe c'est un peu différent, parce qu'on a quand même une inflation qui reste, quoi qu'on en dise, plutôt soutenue. Et quand on parle de l'inflation, on regarde l'inflation cœur, et c'est ça qui est scruté, et nous ça fait un petit moment qu'on pense qu'elle devrait rester assez élevée, parce qu'il y a des éléments structurels derrière cette inflation. Et après, c'est pas forcément négatif, hein, une inflation à 4 ou 5, c'est juste que
c'est quand même beaucoup.
Une inflation saine,
ça doit être 2 ou 3% tout au plus.
C'est beaucoup, mais il faut quand même. On a été dans un environnement où on était dans des taux vraiment très faibles. Il y a eu des éléments exceptionnels qui sont, pas des taux, de l'inflation, mais il y a des éléments exceptionnels. Bon, la pandémie, la crise en Ukraine, qui sont venus perturber tout ça. Mais après, au-delà de ça, vous savez qu'on est dans une transition énergétique. On est dans des politiques qui sont en train de remettre de la souveraineté, donc relocaliser des chaînes de production. Tout ça, ça va forcément se traduire par des coûts plus élevés. Et donc, je ne vois pas comment l'inflation peut baisser, en tout cas retrouver des niveaux à 2%. Nous, on n'y croit pas trop.
Daniel Gérino, oui, c'est l'objectif de la BCE. Daniel Gérino, bon, encore quelques petites hausses de la part de la BCE, et puis ça va rester longtemps sur un plateau pour combattre l'inflation.
Alors, pas évident.
C'est une inflation tenace.
Alors, l'inflation,
collante.
Moi, je pense qu'il faut regarder. Et d'un côté, les États-Unis, c'est pas du tout pareil que l'Europe. L'inflation core, donc ex-coût d'énergie, bon, elle est en gros de 5,6. L'inflation globale, elle est à 5 aux États-Unis. Elle est en dessous de l'inflation core.
Donc, mais elle a été beaucoup plus élevée. Bon,
voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'inflation aux États-Unis, dans l'inflation core? Il y a les salaires. Bon, ça monte, mais c'est pas non plus excessif. Mais il y a surtout les loyers. Or, le prix de l'immobilier s'effondre aux États-Unis.
Ah oui.
Dans
certaines villes.
Un peu partout. Hein. Les indices globaux, ça part très fort.
Même New York.
Un peu partout.
D'accord.
Et donc,
j'ai lu que l'immobilier commercial, effectivement, ça s'effondre.
Alors, pas que commercial, ouais, résidentiel aussi. Okay. Et de fait, on a historiquement un décalage de 18 mois entre la baisse du prix de l'immobilier et la baisse des loyers. Donc là, on va rentrer dans la phase où les loyers vont baisser. Donc ça va être une composante qui va détériorer ou améliorer, selon la vision que l'on a, l'inflation.
Faire baisser l'inflation.
Donc là, de ce point de vue, moi, je suis assez confiant. Et je pense que la Federal Reserve, sans doute... Alors, moi, je pensais initialement qu'en fin d'année, elle baisserait ses taux. Ça sera peut-être plus tôt l'année prochaine. Mais elle s'impliquera dans une logique de baisse de taux. En Europe, c'est pas pareil. En Europe, on a cette fameuse tendance à avoir la boucle prix-salaire. Et donc, avec
C'était un risque dont on parlait aux États-Unis.
Alors,
donc ça concerne l'Europe.
Moi, qui l'ai eu connu dans les années 80, je peux vous assurer qu'une fois que vous avez mis le doigt là-dedans, pour en sortir, c'est comme le tube d'un dentifrice. C'est très, très compliqué. Donc, là-dessus, on est peut-être un petit peu plus pessimiste sur la capacité à pouvoir baisser cette inflation. Surtout que quand vous regardez en Espagne, en gros, l'inflation, elle est de l'ordre de 4%. En Allemagne, elle est de 7%. En Grèce, elle est de 4,5%. En France, elle est de l'ordre de 6,5. Donc, vous voyez, on a une disparité qui rend très, très compliquée la tâche de Christine Lagarde. Donc, je pense qu'elle gardera effectivement ses taux. Elle va les monter encore de 2 fois 25, pardon, pour arriver à 50 centimes. Et les États-Unis ont une situation différente. Et on a un marché bancaire qui n'est pas du tout le même entre les États-Unis et l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de la situation un peu difficile des banques américaines. Oui.
Des banques régionales.
Des banques, pas que régionales.
Les méga-banques, elles sont tranquilles. Elles récupèrent tout le cash, justement, qui sort des banques régionales.
Alors, pourquoi il y a un souci global au niveau bancaire américain? C'est que 92% des avoirs sont en compte non rémunérés aux États-Unis. Nous avons 25%.
C'est une part qui croît quand même,
Oui, mais les banquiers européens sont plutôt généreux. Donc, il y a moins de tentation de sortir l'argent. Et ça a été le problème aux États-Unis. Alors, il faut savoir que sur 18 000 milliards, d'actifs...
On se perd dans les milliards.
Oui, c'est 18 trilliards. Il y a 12 000 milliards qui sont garantis par le FIDC.
Oui, parce que le FDIC couvre jusqu'à... c'est plus qu'en France, où on est à 100 000 euros. C'est peut-être le double, je crois, quelque chose comme ça.
Non, les 200 000 dollars. Ou 250 000 dollars. Donc, la situation...
Donc, c'est quoi? C'est un risque, ça? Ou au contraire, c'est...
Alors, non, c'est plutôt une sécurité.
C'est une sécurité pour les déposants, mais bon...
Voilà, mais le système bancaire américain, on dit, il est fragile. Mais c'est surtout que les petites banques ont fait des bêtises. Gérer des actifs d'une banque, vous devez avoir un actif passif qui correspond. Là, il y a des impasses de trésorerie qui étaient colossales, c'est-à-dire qu'on avait de la ressource court terme avec des placements long terme. La Silicon Valley Bank, elle est tombée parce qu'ils avaient acheté des
trop d'obligations
d'État 10 ans à 0,95.
Dans la valorisation, c'est effondré. Donc, cette crise bancaire des banques régionales américaines, ça pourrait aller un petit peu plus loin, selon vous? Il y a vraiment un risque, Sandrine?
C'est compliqué, mais c'est vrai que historiquement, les crises bancaires, elles ont tendance à durer.
La dernière fois que ça s'est passé, c'était...
Alors, on va pas...
Les savings and loans, c'est ça?
Voilà, c'était ça, dans les années 80. Oui, exactement. On ne peut pas comparer ce qu'il y a aujourd'hui...
C'était pas pour les mêmes raisons.
...avec 2008. Alors non, c'était pas pour les mêmes raisons, mais enfin, c'était quand même aussi dans un contexte inflationniste et avec une remontée des taux, ce qui avait fait effectivement donc mis en difficulté les caisses d'épargne américaines. Là, on se retrouve dans la même situation. C'était cet argent facile, pas cher, et que comme vous le disiez, qui a été mal géré. Donc forcément, après, ils se retrouvent étranglés quand les taux remontent rapidement, parce qu'on a quand même eu 500 points de base.
Absolument.
À marche forcée.
Et situation différente aussi de ce qui a précédé la crise financière de 2008?
Oui, parce qu'en 2008, faut se souvenir que c'était... Alors, pour le coup, on était plus sur du résidentiel, parce que c'était pour financer des particuliers pour acheter leur logement. On n'est pas dans la même configuration, mais on n'est pas trop pessimiste, parce que comme on le voit effectivement, ces petites banques régionales, les dépôts vont sur les grosses, par contre les grosses vont devenir des mastodontes, et ce qu'on pense aussi, c'est qu'il va y avoir besoin de régulation, parce que qu'est-ce qui a fait aussi qu'on est arrivé dans cette situation-là, c'est qu'on a eu un président Trump qui a beaucoup dérégulé, et c'est comme ça qu'on en est arrivé aux excès qu'on voit aujourd'hui, et les problématiques qu'il y a sur les banques régionales.
Difficile de comparer. Oui.
C'est juste que déréguler, oui, mais ils ont fait des bêtises.
Oui, oui.
C'est pas que déréguler. C'est pas que déréguler, oui. Si vous faites pas de bêtises, il y a pas de problème.
Oui. Et par rapport au cycle, vous dites difficile de comparer à 2008, mais par rapport au cycle de relèvement des taux de la Fed, là, on arrive à 5,25 au même niveau qu'en 2006. Et il y a beaucoup de tweets sur les fils Twitter des grands influenceurs de Wall Street qui circulent là depuis deux jours, qui font le parallèle entre le plateau sur lequel on a été à partir de 2006, qui s'est suivi par la crise financière, et là où on en est maintenant. Cette fois, c'est différent, vous diriez?
C'est pas du tout pareil. Là, on était sur une accumulation. On se rappelle pas, mais à l'époque, Greenspan, qui était le président de la Fed,
Alan de son prénom.
Voilà, Alan Greenspan, remontait les taux d'intérêt à vitesse, à marche forcée.
Ça a été aussi rapide à ce niveau-là en 2006.
C'est magnifique. Ouais. Il suffit de regarder la courbe, c'est une pyramide. Il avait remonté les taux courts. Pourquoi ? Parce qu'il voyait qu'il y avait un emballement du crédit sur l'immobilier. Donc il avait dit, je remonte les taux courts, ainsi ça fera monter les taux longs et ça calmera le crédit immobilier, donc la bulle spéculative sur l'immobilier. Or, les marchés ont très mal interprété les choses et après lui ont refilé la responsabilité. Les marchés ont dit, s'il remonte les taux courts, il lutte contre l'inflation. Donc, s'il n'y a plus d'inflation, parfait, les taux longs baissent. Et donc, ça a suralimenté en partant d'une bonne intention. Mais c'est complètement différent. Là, le problème qu'on va avoir avec les banques américaines, les petites banques américaines, c'est qu'elles financent les PME, les ETI et les PME. Or, si vous coupez, les grandes banques le font sans doute plus de la même manière, là, ils vont se couper un accès au financement. À une période,
ça,
c'est déjà compliqué.
Ça s'en ressent boursièrement sur le Russell 2000, qui est l'indice des petites et moyennes valeurs. Retour en France, en Europe, là, on a eu beaucoup de publications, des résultats, des chiffres d'affaires. Certains étaient bons, en apparence, et pourtant, il y a eu pas mal de sanctions en bourse. Hein, quand on regarde, fait un peu le bilan de la semaine, Stellantis, Veolia, ArcelorMittal, Airbus, ça a été assez mal accueilli. Bon, BNP, plutôt bien. Élément exceptionnel, hein, vente au bon moment de sa banque régionale californienne. Comment est-ce que vous interprétez, Sandrine, cette sanction boursière sur des nouvelles qui finalement sont pas si mauvaises que ça?
Oui, mais il faut quand même pas oublier que justement, on en parlait en début d'émission, on a des marchés qui sont élevés et on a des valorisations qui sont aussi élevées. Alors, il y a des disparités en fonction des secteurs et des valeurs. Ce qu'on en retient, c'est qu'on est peut-être à un pic sur les résultats et que les résultats, ça reflète le passé et que là, maintenant, on se tourne sur les prochains trimestres et que dans les discours des sociétés, on sent quand même que... Alors, il n'y a pas une frilosité, mais une prudence.
Et c'est la première fois qu'on ressent ça? Parce que jusqu'à maintenant, on disait non, c'est formidable, c'est quelle résilience. Ouais.
Non, c'est pas vraiment nouveau. Ça fait plusieurs trimestres qu'on sent que... Voilà, ça fait plusieurs trimestres qu'on sent quand même qu'il y a une prudence des dirigeants. Mais là, on voit clairement que ça va être compliqué d'aller plus loin sur des niveaux de marge. Ça va peut-être un peu caler. Parce qu'ils ont fait un très bon premier trimestre, mais ils ne relèvent pas les objectifs pour l'année entière. Voilà. Donc, on se questionne sur, effectivement, qu'est-ce qui va se passer sur la deuxième partie de l'année, sachant qu'ils mettent tous en avant la hausse des coûts. Et alors, c'est pas les coûts liés aux matières premières, parce que tout ça, ces effets-là, c'est vraiment les coûts salariaux. On revient sur cette histoire de salaire, qui sont pas juste liés à l'inflation. Il y a aussi des pénuries pour trouver des gens avec des compétences sur certains secteurs.
Daniel Gerino, qu'on voit les limites du pricing power.
Oui, alors moi je pense que les résultats étaient très bons parce que quand même l'inflation a eu bon dos. Il y a énormément d'entreprises, ne serait-ce que prenez le cas de la SNCF. J'ai pris le train ce matin. Quand vous voyez le prix d'un billet de train aujourd'hui, il faut être très riche pour se payer la SNCF. Les prix ont vraiment explosé.
On dit ça depuis des années.
Tout le temps, je vois la flambée. C'est impressionnant.
Et vous le prenez tout le temps. Donc ça va.
Ben oui, peut-être il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a plus d'avion. Hein. Par contre, je pense que les entreprises ont augmenté considérablement leurs marges.
Ils en ont profité un petit peu,
Ils en ont profité un petit peu.
On le dit pour les distributeurs, mais pas que les distributeurs, alors.
Distributeurs ont été plutôt raisonnables, d'accord, de ce point de vue. Hein. Maintenant, de l'autre côté, vous ne pouvez plus monter éternellement, c'est profiter de cette aubaine inflation, parce que quand même, on a vécu 15 ans sans inflation. Dès que le système s'enclenche, on en profite, évidemment.
Exactement.
Là, c'est terminé. Je pense qu'on ne pourra plus aller au-delà. Donc, ce qui veut dire que les perspectives de résultats, c'est pour ça que dans les guidance, il n'y a plus de belles perspectives qui sont données. Et donc, le marché dit, ben, finalement, on a eu pratiquement 15% à 20% pour ceux qui ont, ou presque, 20% pour ceux qui ont été sur le Nasdaq. C'est quand même plutôt pas mal. On peut se placer sur du cash jusqu'à la fin d'année, on sera le roi du pétrole. Maintenant, on voit les résultats pour le deuxième trimestre de 2023 aux États-Unis qui devrait être encore un peu négatif, et troisième, mais surtout quatrième trimestre, on attend des résultats de l'ordre de plus de 10%.
Je vais regarder un petit peu de temps pour que vous nous parliez de votre stratégie d'investissement. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles chez vous, chez OTA Capital, Sandrine Covin?
Oui, on réduit un peu l'exposition aux actions. Hein, ça, après le fort rallye depuis.
Vous avez déjà commencé il y a quelques temps.
On avait déjà commencé, et donc là, on arrête la réduction, mais en revanche, on est en train de voir comment on peut rebalancer les expositions, parce qu'il y a, il va sûrement y avoir.
Cash, c'est pas forcément une bonne idée.
D'abord, quand on gère des fonds actions, on est obligé d'être investi sur les actions. On peut pas avoir plus de 20% de cash. D'accord. Mais là, l'idée, c'était de faire du cash, parce qu'on fait de la gestion privée aussi. Hein, donc, mais c'était de refaire du cash pour profiter. À mon avis, il va y avoir des soldes. On pense qu'il va y avoir des soldes.
Sell and go away.
Exactement.
Enfin, je le dis aujourd'hui.
Et donc, pour profiter.
Parfois, c'est les invités. Parfois, c'est moi. On va rien.
Voilà. Pour profiter, mais on reste à se dire qu'il faut aller sur de la société de qualité, bien établie, avec de la croissance régulière, des fortes parts de marché, du pricing power, pas d'endettement, enfin peu d'endettement. Enfin voilà un petit peu le
ça
genre
correspond
de.
Au luxe, encore et toujours, ça.
Le luxe, ouais. Mais il n'y a pas que le luxe, il y a la pharmacie qui aujourd'hui me semble assez intéressant en secteur défensif. Il y a des gens comme Sanofi qui ont pas mal de retard et qui vont commencer normalement cette année à délivrer des choses dans le pipeline assez intéressantes. Et puis vous avez tout ce qui tourne autour de la transition énergétique, de la digitalisation. Enfin, il y a des thématiques comme ça fortes à regarder sur les marchés. Et avant de passer là-bas, le portage obligataire, à mon avis, me semble aussi intéressant, notamment pour notre clientèle dans les
sur
particuliers. Parce que là, il y a de très belles opportunités là-dessus.
Voilà. Daniel Gerino, en quelques mots.
Oui, effectivement, le portage obligataire. Mais nous, on est exclusivement investment grade sur des signatures plutôt senior secured.
Et ça donne du combien?
Aujourd'hui, sur du 6 ans, 5-6 ans, vous avez du 4,5 à peu près. Donc, c'est quand même plutôt pas mal sur de la très, très bonne qualité de signature. Après, vous subissez évidemment le mark-to-market, mais ça, c'est un placement. Sur les actions, nous, on a été plutôt luxe en début d'année, cybersécurité et puis haut dividende. Bon, les hauts dividendes, ça n'a pas forcément très très bien marché.
Valeur de rendement, comme on dit.
Voilà, on conserve en fonds de portefeuille. Et on avait introduit toute une partie de notre portefeuille, le secteur de la santé, qui résiste plutôt pas mal. Et on est assez content de ce secteur, et notamment aux États-Unis. Et on a un peu écrété quand même le luxe. On a fait des allers-retours pendant la période, justement le jour d'une interview avec BFM, de la crise d'UBS, on a acheté du BNP. On a fait des allers-retours dessus. Le secteur bancaire, c'est un secteur de trading. C'est pas un secteur sur lequel on s'assoit et on reste dessus. Donc on n'est pas trop sur la consommation discrétionnaire, plus trop parce qu'elle est quasiment au sommet. La tech classique, on en a structurellement parce que ça reste.
On le voit avec Apple,
meilleur
vecteur. Malgré tout.
Mais oui. Sur 3
les
ans,
les ventes
sur
d'iPhone, ça marche.
Ça marche. Et ça, c'est
24 milliards de profits trimestriels.
C'est le luxe des Américains. Nous, on a le luxe. Les Américains, ils ont la tech. Et ça fonctionne très bien. Par contre, ce qui est beaucoup plus en retard, mais qui pourrait déclencher, je pense, dans les mois qui viennent, c'est toute la partie Asie et notamment la Chine.
C'est comme nous, on est un petit peu en retard, mais en tout cas, merci. On terminera là-dessus sur l'Asie et la Chine qui offrent donc de belles perspectives. on l'aura compris. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce regard croisé. Daniel Gerino, président de Carlton Sélection, et Sandrine Covin, directrice de la gestion collective d'OTA Capital. Et si vous voulez revivre les différentes séquences de cette émission, il y a bien entendu le replay sur notre site internet bfmbusiness.com. Dans un très court instant, on va de nouveau prendre des nouvelles des marchés avec Stéphane Soutail chez Technibourse.com. A tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
Allez, comme promis, on retrouve à 11h33, on retrouve Stéphane Soutail chez Technibourse.com pour prendre des nouvelles du marché avec un CAC 40. Je dirais pas qu'il flanche un petit peu, mais qui de nouveau connaît une progression un petit peu poussive, plus 0,28%, 7361. Ça va être comme ça jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi américain ?
Oui, je le pense. C'est vrai qu'on a, je pense, trouvé les limites un petit peu de pour la matinée. 7390 en haut, 7350-55 en bas. Je pense qu'il y a probablement peu de chances qu'on sorte de ces limites en attendant les chiffres de l'emploi à 14h30. Alors, est-ce que une bonne nouvelle sur le front économique sera une mauvaise nouvelle pour les marchés ou vice-versa? Je m'interroge en fait, hein, mais il est possible qu'on ait quand même un petit peu de volatilité si on a un chiffre très éloigné du consensus. On attend 180 000 créations d'emplois. Donc en fait, les choses sont assez simples. Hein. Si on passe au-dessus des 7 400 points, eh bien on peut viser peut-être une cinquantaine de points supplémentaires dès cet après-midi. Et à contrario, si on passe clairement en dessous des 7350, eh bien on pourra peut-être même aller mettre en place un nouveau point bas vers 7300 points par exemple. On sent quand même cette tendance qui s'est un petit peu dégradée hein, ces derniers temps, sans que ce soit très préjudiciable. C'est, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, ça reste plutôt une correction technique assez légitime après un parcours quand même excessivement brillant, quasiment plus 15% depuis le début de l'année. C'est quand même assez rare pour être souligné. On note aussi hein, quelque chose d'assez surprenant avec des marchés qui sont quand même sur des niveaux assez élevés. Une progression continue des cours de l'or avec finalement une décélération hein, de la hausse des taux aux États-Unis et même un statu quo dans les prochains mois. On a vu l'once d'or toucher un nouveau record hier à $2062. C'est vrai que on peut se dire que peut-être que l'or est un métal finalement. C'est pas une si vieille relique barbare que ça, parce que si on continue à avoir un statu quo et quand on aura une diminution des taux d'intérêt de la Fed, eh bien on aura encore certainement un effet de progression sur l'once d'or qui pourra peut-être dépasser les $2100. Donc voilà, c'est assez incroyable quand même hein, avec des marchés qui sont pas loin de leur point haut, au moins en Europe, et puis une once d'or qui a touché de nouveaux records. Par contre, le pétrole, lui, il a baissé ces trois dernières semaines hein, il a perdu 15%. Donc on a rebondi contre cette grosse zone de résistance à $87 et on est revenu quasiment hein, chercher les points bas de ces derniers mois vers les $70, pas tout à fait, hein, il manque pas grand chose. Et puis on a un euro-dollar qui reste toujours en progression, mais on a ce gros plafond de verre entre 1,11 et 1,1180 qui pour le moment, je pense, freinera les velléités haussières. Donc acheter sur repli vers 1,09, 1,0950 reste peut-être une occasion de rentrer à meilleur compte hein, sur l'euro-dollar. Alors est-ce qu'on réussira à déborder les 1,1180? Ça, je pense que ce sera le cas si, hein, à un moment ou à un autre, on voit les taux d'intérêt refluer aux États-Unis sous le commandement de la Fed.
Merci beaucoup Stéphane Soutail et on retient la revanche de l'or, la fameuse relique barbare. Stéphane Soutail chez Technibourse.com.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et cette idée de fond, c'est avec Mathieu Caquineau qui est en ligne avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Vincent.
Vous êtes analyste fonds chez Morningstar. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude que vous avez récemment publiée sur le Do Nothing Portfolio. Hein, le portefeuille qui ne fait rien ou il n'y a rien à faire, on pourrait traduire ça comme ça. De quoi s'agit-il?
C'est ça, le do nothing portfolio, c'est un portefeuille hypothétique qui, comme vous l'avez dit, ne bouge pas. C'est la stratégie de ne rien faire. Alors dans cette étude, en fait, on a créé un portefeuille qui a acheté les 500 titres qui composent le S&P 500, un indice phare des actions américaines. On a commencé ce portefeuille il y a 10 ans, en 2013. On a reproduit les pondérations des titres. On n'a rien changé par la suite pendant 10 ans, aucun ajustement. Donc la composition du portefeuille, elle est restée figée. S'il y a des sociétés qui ont été rachetées sur la période, eh bien le cash correspondant a été gardé dans le portefeuille. Il y a environ 100 sociétés sur cette période de 10 ans qui n'ont pas survécu de façon indépendante. Et ce qui est étonnant, c'est que ce portefeuille figé, eh bien, il a réalisé une performance similaire à celui du vrai S&P 500 sur les 10 dernières années, avec une volatilité moindre quand même. Donc au final, un meilleur rendement ajusté du risque. Ce test du coup hypothétique de ne rien faire, eh bien, se limite pas aux indices. On a aussi testé le concept sur des fonds pour voir ce qu'aurait donné la performance si le gérant avait laissé son portefeuille intact, c'est-à-dire sans vendre et sans rien acheter sur une période donnée.
Et alors, quelles sont les conclusions?
Eh bien, ça suggère quand même que les gérants de fonds actifs, eh bien, pourraient ne pas ajouter autant de performance que prévu en tradant activement les actions. Dans notre étude, on a appliqué la stratégie de l'immobilisme sur les fonds. Donc, on a acheté toutes les actions qui étaient détenues par les fonds à un moment donné, puis on les a conservées sans rien bouger. Et cette stratégie a permis d'obtenir des rendements similaires, voire parfois meilleurs, avec moins de volatilité que le vrai fonds. C'était particulièrement sur les 10 plus gros fonds actifs vendus aux États-Unis. Eh bien, les résultats montrent que certains fonds étaient vraiment à la traîne par rapport à leur version figée. Et souvent, la raison, c'est que les gérants ont tendance à vendre un petit peu prématurément des actions performantes. En gros, ils ont pris leur profit trop tôt. Portefeuille figé aussi, qui a quand même bénéficié de l'absence de coûts de transaction, bien sûr. Donc, ça l'a aidé par rapport au vrai portefeuille.
Et quel enseignement en tirer pour les investisseurs, Mathieu?
Alors, c'est des résultats qui sont pas complètement concluants, parce que le portefeuille figé, il reste hypothétique. Puis c'est une étude qui porte sur une période de 10 ans, de 2013 à 2023. Mais ça suggère quand même qu'il faut se montrer prudent en tant qu'investisseur avec les stratégies d'investissement très réactives qui génèrent beaucoup de transactions sur leur portefeuille. Un gérant avec une approche de long terme qui ne change pas beaucoup son portefeuille, eh bien, il peut créer beaucoup de valeur sur le long terme.
Est-ce que vous avez des exemples de fonds à nous donner?
Oui, alors trois exemples, notamment le fonds d'action américaine proposé par Dodge & Cox. C'est une société peu connue en France, elle est basée aux États-Unis où elle a une solide réputation. C'est une approche très ancrée sur le long terme avec un portefeuille stable qui ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas de gérant star ici, c'est un vrai travail d'équipe. Un fonds noté Gold, donc une très bonne note. Sur les actions internationales, on peut citer le fonds Harris Associates Global Equity. Ils sont également peu connus du grand public en France. En réalité, c'est une filiale du groupe Natixis, un groupe qui assure la distribution de leurs fonds en Europe. Ils ont l'habitude chez Harris de gérer des fonds très concentrés et là, ce portefeuille ne fait pas exception. L'équipe de gestion est très sélective. Ils partent d'un univers d'investissement mondial qui compte plusieurs milliers de titres et ils vont en retenir qu'une quarantaine. Et une fois en portefeuille, eh bien, ces sociétés, elles peuvent rester là pendant des années. Donc, beaucoup de patience de la part de l'équipe d'investissement. Un fonds noté bronze. Et puis, enfin, dernier fonds dont on parle aujourd'hui, c'est le fonds GuardCap Global Equity, là aussi les actions internationales. Beaucoup de patience avec cette approche, un portefeuille qui bouge presque pas. Par exemple, l'année dernière, en 2022, eh bien, l'équipe n'a pas acheté un seul nouveau titre dans ce portefeuille. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais ils passent leur temps, eh bien, à valider leurs hypothèses d'investissement sur ce qu'il y a déjà en portefeuille et puis à chercher de nouvelles idées. Mais ils sont très exigeants sur la qualité des sociétés et leur solidité. Une approche patiente qui a très bien fonctionné sur le long terme. Ce fonds est noté Gold.
Merci beaucoup Mathieu pour cet éclairage sur les Do Nothing Portfolios. Mathieu Cacchino, analyste fonds chez Morningstar.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, celles que vous nous posez sur l'adresse email BFM Business habituelle, on retrouve François Monnier d'Investir et Marc Favard de Premier Part AM. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui vous est adressée, François. Elle vient d'Anne. Parmi les publications du CAC 40, laquelle vous a le plus surpris? Alors on ne sait pas dans quel sens, surpris dans le bon sens, dans le mauvais.
Ce qui peut nous surprendre,
qui vous vient
d'abord, il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, ce qui peut nous surprendre, c'est que on a quand même toujours un discours optimiste, alors que on peut se dire que on a quand même des publications qui, au premier trimestre, ont été un petit peu décevantes, avec quelques dégradations de volume. Mais globalement, le message qui est proposé aux investisseurs de la part des dirigeants, c'est ça ira mieux au cours des trimestres à venir. Et donc, on n'a pas de révision de résultats annuels, d'objectifs annuels revus clairement en baisse. Le message, c'est on tient bon, voilà. On relève un petit peu, on a vu chez Schneider Electric, mais les profit warnings, pour l'instant, en tout cas chez les grandes stars, sont rares. On a le luxe quand même qui se distingue avec une croissance toujours exceptionnelle, donc eux, pas de ralentissement de volume. Après, voilà, il faut maintenant regarder et être attentif au décalage de cours parce que il n'y a pas non plus. Donc ça, c'est l'autre surprise. Donc première surprise, les objectifs annuels sont tenus malgré un premier trimestre qui est quand même mou, voire très mou. La deuxième surprise, c'est qu'il n'y a pas d'emballement sur les cours de bourse lors des publications. On n'a pas des titres qui prennent 5, 7, 8%. Donc, ça montre que la bourse est un peu plus gourmande. En tout cas, elle acte le fait qu'on ne change pas la tendance sur l'ensemble de l'année. Mais pour que ça aille beaucoup plus haut, il faut maintenant des chiffres concrets pour y aller. Donc voilà. Donc, on a quand même des investisseurs qui ne s'emballent pas lors des publications. Donc, publication, discours de qualité. Et des investisseurs qui sont plutôt exigeants.
Mmh. Pour vous, Marc, question de Léonore. Quelles sont les publications de résultats, encore et toujours, qui vous semblent prometteuses pour le parcours des titres concernés ces prochains mois?
Alors, j'en citerai quatre. Pour le CAC 40, je trouvais qu'Essilor, la publication, ouais, avait quand même bien surpris le marché. Puis ça tombe bien, elle est sur un secteur plutôt défensif, avec des bons, enfin une société en plus qui est le rapprochement de plusieurs acquisitions. Et donc tout ça se met en place. Donc on peut penser que pour l'avenir, ça peut continuer, puisque en dehors de l'activité économique, le portefeuille se restructure. Après, nous, ce qu'on va regarder dans les commentaires positifs, c'est celles où on pense quand même que ça peut durer. Donc, on revient sur le secteur de la santé. La publication d'AstraZeneca était très bonne. Mmh. Elle légitime une progression, enfin, des bénéfices supérieurs à 10% cette année, que la société va tenir. De la même manière, c'est pas une société française, mais c'est un secteur qu'on regarde bien, qui est le secteur de l'aéronautique et de la défense. Hier, il y avait publication d'un acteur comparable à Thales qui s'appelle Leonardo, oui, qui a publié des bons résultats, un bon carnet de commandes, du cash flow de plus en plus positif. Donc tout ça satisfaisant et peu de risques. Et puis si je veux mettre un petit côté cyclique et mobilité, là c'est EasyJet qui a donc le transporteur. Ce matin, il y avait les publications d'Air France, mais EasyJet est très confiant pour cet été. Donc sur la volumétrie, sur les prix, et puis les prix du pétrole rebaissent. Donc si on veut être un petit peu audacieux, chercher un peu de bêta dans le portefeuille, bah peut-être qu'on peut le trouver avec un titre comme EasyJet, et c'est la partie service qui est en retard. Donc voilà.
Si vous a frappé, et ce qui est porteur d'espoir,
est-ce qu'il peut continuer, voilà, est-ce qu'il peut monter.
Et si Essilor, Luxottica, AstraZeneca, Leonardo et EasyJet, voilà, qui n'est pas malmené comme Air France KLM aujourd'hui, parce, voilà, que là, Air France KLM qui réduit ses pertes, c'est très mal accueilli en bourse. François, question de Pierre, quel regard portez-vous sur Saint-Gobain?
Ben, Saint-Gobain, voilà, a fait...
Question très courte.
Alors, c'est court, donc je vais peut-être être un peu plus long.
Et pourquoi Saint-Gobain? Je sais pas, il y a une actualité particulière.
Ben, peut-être que la Pierre a de l'action Saint-Gobain, je sais pas. Ouais. Ce qu'il faut voir sur Saint-Gobain, c'est, oui, il y a eu une baisse des volumes au cours du premier trimestre, une baisse des volumes d'un peu plus de 5%, mais ça a été largement contrebalancé par une hausse des prix de plus de 10%. Donc résultat, on reste sur une société qui continue d'être en croissance et une croissance de plus de près de 5%. C'est une croissance qui est supérieure à Sika. On compare beaucoup boursièrement Sika à Saint-Gobain et on a des investisseurs, on a du mal parfois à comprendre, qui aiment beaucoup Sika et qui sanctionnent avec une décote Saint-Gobain de près de 20%. Donc à un moment donné, je pense que cette décote va se résorber. Et ce qui fait que Saint-Gobain reste performant, c'est que sur la partie construction, c'est surtout sur la partie rénovation que Saint-Gobain est très fort. La rénovation, c'est à peu près un peu plus de la moitié de leurs revenus, alors que la construction neuve, celle qui ralentit fortement, ouais, du fait de la hausse des taux d'intérêt, et on voit les promoteurs immobiliers qui sont quand même à la peine, on voit tout ce secteur qui quand même souffre vraiment. Là, on a un vrai sujet, et on en reparlera peut-être dans les mois à venir, mais sur l'évolution des prix de l'immobilier et de la construction, mais en tout cas...
Les années à venir.
Peut-être dans les mois.
Pour les prix.
Ouais, pour les prix, ça commence à baisser, comme quand ça commence à monter.
Hein. Ouais.
Là, on est sur, c'est à peu près 9% de leur activité. Donc, il y a 20% de l'activité avec la construction neuve où Saint-Gobain peut être fragilisé. Le reste, c'est de la rénovation. Donc, tout va bien. Et sur l'automobile, il y a de la demande. Donc, on est sur un groupe qui est plutôt bien orienté avec une marge opérationnelle attendue entre 9 et 10%. Donc, une société rentable, en croissance, bien gérée. Donc, je suis plutôt confiant. C'est le message que j'ai envie de donner à Pierre.
Marc Favard, les matériaux de construction, ça vous intéresse ou...
Oui, mais comme en ce moment, le marché...
T'as pas trop l'air. Hein.
Si. Non, mais je pense que Saint-Gobain a fait un très, très beau travail. Ouais. Intrinsèquement, la société, elle est très intéressante en relatif par rapport à Sika. Ouais. C'est beaucoup moins cher. Et le portefeuille a été beaucoup plus... positionné pour profiter de tous ces marchés de croissance. Simplement, il y a une partie liée effectivement au résidentiel qui pose un peu un problème au marché. Donc, il faut être juste patient et ça sera certainement un bon ticket dans les prochains mois. Mais comme en ce moment, le marché est très attentif à toutes les valeurs cycliques, peut-être pas se précipiter, quoi.
Bon, vous avez certainement plus de choses à dire sur les puces, puisque Lucas vous demande, depuis ses plus hauts, le titre ST Micro s'est replié de 20%. Est-ce que vous me conseillez de me positionner du fait de cette baisse, quoi, du fait que ça...
Oui, alors ce qu'il faut d'abord dire sur les semi-conducteurs, c'est un peu un mouvement global. Hein, puis après, il va falloir regarder STM, c'est pas tous les semi-conducteurs. Donc d'abord, il faut saluer les très bons résultats d'STM hein, qui ont été magnifiques et le parcours de la société qui s'est repositionné sur les bons marchés depuis 2 ans. Donc ça sera positif et j'en reparlerai.
Avec Apple comme gros client. Hein.
Oui, mais c'est surtout le reste. Vous allez voir, d'accord, qui est le plus intéressant. Donc la société, c'est bien repositionné, si on regarde les points positifs, tout le secteur de l'automobile, tous les secteurs industriels, avec effectivement des besoins de puces de plus en plus importantes avec l'électrification. Dans les automobiles, avec les normes, vous êtes obligé de mettre de plus en plus de puces partout. Hein, donc le contenu et STM est très très fort dans le secteur automobile, dans le secteur industriel. Ce qui pêche un petit peu pour STM, mais qui est plus un sujet sur son activité liée à Apple, par exemple, et ça représente à peu près 30% de l'activité, dans tout ce qui est les mobiles, les PC, l'électroménager classique, quand vous avez un aspirateur, il y a toujours une puce électronique, et ça, il y a un ralentissement. Donc la société, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, j'ai des très bons résultats au Q1, au Q2, pareil, mais ma marge va un petit peu baisser. Donc ça, le marché, sur cette nouvelle, il l'a pas aimé, mais il a surtout pas aimé tout ce qui se passe sur l'ensemble du secteur, et le parcours depuis le début de l'année avait été splendide. Ça vaut 8 fois les bénéfices, donc il faut être prudent peut-être à court terme, parce que le marché va attendre la confirmation de la fin du cycle des inventaires sur la partie consumer, mais la partie automobile industrielle, la société est vraiment leader. Et comparons des choses comparables, hein, ça n'a rien à voir avec AMD ni avec Intel. Les concurrents de STM, c'est Infineon, c'est NXP, c'est E.ON. Voilà. Et dans des secteurs automobiles, ils ont un boulevard dans tout ce qui se passe dans l'électrification, le solaire, l'industriel, la robotique.
François Monnier, un avis sur ST Microelectronics.
Mais plus globalement, sur le marché des semi-conducteurs, il y a deux messages. Le premier message, c'est que les semi-conducteurs, on est toujours très très en amont. C'est le secteur le plus en amont d'un cycle. Et donc, quand ça ralentit, les investisseurs se posent d'abord tout de suite beaucoup de questions sur les semi-conducteurs. Donc, attention au vent de face. Le deuxième message, c'est que dans le marché des semi-conducteurs, là, on voit que vraiment, il y a deux secteurs, deux sous-secteurs. C'est, une partie qui fonctionne très bien, une jambe qui court très vite. C'est la partie industrie, automobile, ce qu'a décrit Marc. Et l'autre jambe qui tourne au ralenti et qui marche avec un boulet, c'est tout ce qui est lié au marché du PC et à la téléphonie, où on voit qu'il y a eu un suréquipement pendant la période Covid. Donc le marché se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que ST Microelectronics, c'est, l'une des grands gagnantes, en tout cas, de cette évolution du secteur, et surtout, ils ont bien retravaillé leur portefeuille.
Alors, tout autre chose avec cette question d'Alain pour vous. Un conseil sur Vinci, point d'interrogation, les questions sont de plus en plus courtes.
Alors, Vinci, là aussi, il y a eu un vrai travail de rotation des activités. Hein. Faut rappeler qu'ils ont quand même quitté les parkings pour aller sur les aéroports. Et là, dans une période où on se dit que les gens vont davantage voyager, c'est un pari gagnant. Le deuxième pari gagnant, c'est tout ce qui a été fait sur la transition énergétique. Donc, on a une société qui arrive à afficher de la croissance, hein, une croissance qui est relativement forte. Hein. Au premier trimestre, on est encore plus de 14%. 14% de croissance en comparable, donc sur un chiffre d'affaires de près de 15 milliards, donc c'est significatif. On a les concessions autoroutes. Bon, alors, il y a cette polémique sur est-ce qu'ils ont bien acheté, mal acheté ces autoroutes, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça rapporte à
Vinci. Des décennies. Hein.
Voilà. Ah, et donc,
les concessions, ça court sur des années et des années.
Absolument. Donc, on a l'autoroute qui apporte quand même un pilier. Vous avez les aéroports qui sont en croissance, le pôle énergie qui croit fortement, et après vous avez, je veux dire, les doutes sur la construction. Donc, mais les doutes sur la construction, on a quand même un carré de commandes qui peut rassurer. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que la communication de Vinci soit peut-être un peu plus musclée. Ils ont tendance peut-être un petit peu à faiblir au cours des derniers trimestres, mais globalement, ça reste une très belle valeur.
En quelques mots, Marc Favard, la construction.
Nous, on aime bien, et pour nous, la construction, c'est petit. Hein, donc, la partie la plus à risque, la promotion immobilière, toutes ces choses-là, c'est tout petit. Donc, on capitalise sur les infrastructures, les autoroutes. Évidemment les aéroports et toute la partie service qu'ils ont racheté à l'espagnol ACS. Et ça, tout ça, c'est très très bien.
Et le match Vinci-Eiffage, Bouygues? Non,
je pense que les trois dossiers, match. D'ailleurs ouais. Même maintenant Bouygues, on reconsidère le dossier après son acquisition payée très cher, mais je pense que les trois dossiers sont intéressants. Oui, c'est assez tiède, c'est bien, on n'est pas trop cyclique sur ces dossiers.
C'est dans les services, cette acquisition. Ouais. Question pour vous, Marc, ce sera la dernière. De Bastien, après la baisse du pétrole, faut-il acheter le secteur pétrolier? 73 dollars là sur
le Brent. Alors nous on pense qu'il y a eu beaucoup de spéculation effectivement, enfin c'est aussi un effet en Covid donc sur le pari sur le dollar, sur le gaz, sur les marges de raffinage, donc tout ça rebaisse, donc il y a des aspects spéculatifs, mais on va rentrer à la côté dans la driving season, donc la partie où on consomme
aux États-Unis,
voilà, où on consomme beaucoup, les stocks américains sont bas. On peut penser que même si le price, l'OPEP a quand même un pouvoir de pas de calmer, mais de faire en sorte que le pétrole tienne sur ses niveaux. Puis il y a eu très peu d'investissements, donc quelque part, on en revient à un acteur assez évident qui est Total, qui reverse un
qui
gros dividende.
Qui a souffert ces derniers jours. Hein.
Oui, qui a souffert, mais aujourd'hui
raison de plus alors.
Cette fois les bénéfices, ça délivre à peu près 10%, 5% en dividendes. Et 5% en rachat d'actions. Sur ces niveaux-là, après la baisse qu'on a connue du pétrole, des marges de raffinage qui commencent encore aussi à baisser. Donc tous les agrégats de la constitution des résultats ont baissé, donc c'est plus facile de se positionner. Et même quand on est en période de récession, de ralentissement, on consomme toujours du pétrole, donc ça peut être aussi un peu défensif. Et autre chose, toutes ces sociétés ont dit qu'elles devaient réinvestir et investir dans le parapétrolier, que ça soit avec Technip Energies sur l'NNG, que ça soit avec Halliburton ou Schlumberger sur les services, c'est quand même très intéressant pour nous.
François, en quelques mots, le pétrole?
Oui, le pétrole est surtout via les parapétrolières, puisque on le sait, l'année dernière, les compagnies pétrolières ont gagné énormément d'argent, et maintenant, elles vont dépenser une partie en investissant à nouveau pour la recherche de nouveaux puits de pétrole un peu partout dans le monde. Donc moi, Schlumberger, c'est une de nos valeurs favorites chez Investir.
La une d'Investir, justement, on n'en a pas parlé là depuis le début de l'émission, on peut la voir. C'est Et Maintenant, me semble-t-il.
Exactement.
À propos de la bourse, j'imagine. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, on se pose les questions sur maintenant. Voilà, on a une nouvelle feuille de route avec des hausses de taux à la fois de la BCE et de la Fed. On a maintenant une belle visibilité sur les publications des entreprises du CAC 40, mais aussi européennes et à l'international. Donc on peut se poser la question, alors qu'on a un CAC 40 au plus haut, quelle va être la suite, quels seront les prochains enjeux? Et c'est ce qu'on décrit dans le journal d'Investir qui va sortir
samedi. Dans tous les kiosques. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce BFM Patrimoine. François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir, et Marc Favard, directeur général de Premier Part AM. Et bonjour Sandra Gandoin.
Bonjour Vincent Touraine.
Vous semblez toujours étonné quand je quand je prononce votre nom, mais non, voilà, il y a pas de quoi étonner.
Comme tous les jours.
Dans quelques minutes, oui. Dans quelques minutes, 90 minutes business. Qu'y a-t-il au programme?
On va parler des banques américaines. Hein, les autorités américaines n'ont toujours pas réussi à éteindre l'incendie qui touche les banques régionales. On va parler de PacWest, mais on va parler de Goldman Sachs également avec Caroline Morisseau. Dans quelques minutes, on évoquera aussi ChatGPT et cette alternative made in France dans notre focus avec Anthony Morel. Et puis, vous savez que c'est la Foire de Paris encore ce week-end.
Oui.
Jusqu'au 8, les derniers jours, le dernier week-end porte de Versailles, 400 000 visiteurs attendus et son directeur qui sera avec nous en plateau.
Y aura-t-il la 88 minutes business lundi? 8 mai.
Mais bien sûr.
Et ben, il y aura aussi un BFM Patrimoine. Et
évidemment, nous sommes
bien.
Là.
Donc, à tout à l'heure, midi. Et puis, on se retrouvera lundi. Je vous rappelle le CAC 40, plus 0,32%. 7364, c'est la fin de cette émission. Bien entendu, le replay hein, pour retrouver BFM Patrimoine. Nous, on se retrouve dès lundi à partir de 10h. Excellente fin de semaine à toutes et à tous avec BFM Business.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.